Mais tu me dis quand est-ce que je peux commencer le cours, d'accord? On peut y aller? Si quelqu'un pouvait fermer les portes, s'il vous plaît, ce serait bien. OK, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le cours Dieu dans mon travail. On est à la leçon 3 et donc je suis heureux de vous retrouver. La semaine dernière, c'est le pasteur Basile qui enseignait. Je n'ai pas eu l'opportunité d'écouter la leçon encore. Moi-même, j'étais à l'extérieur pendant une semaine, perdu dans la forêt. Je ne sais pas pourquoi. Puis justement, en parlant de forêt, ce matin, on va parler de culture. Mais pas dans le sens qu'on entend généralement. Lorsqu'on entend le mot culture, à notre époque, en Occident, on pense à la culture, la musique, les arts, tout ça. On va aller sur le sens littéral du terme, puis on va voir ce que les Écritures nous enseignent par rapport au travail. Parce qu'il y a un lien entre la culture et le travail qui est profondément biblique. On va aller ensemble dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on vient dans ta présence ce matin parce que tu es le Dieu qui est à l'œuvre. Tu es à l'œuvre depuis la création, même depuis avant la création, Seigneur. Hors du temps, tu crées l'espace, le temps. Tout l'univers vient de ta vision, de ta pensée, de tes desseins à toi, de tes décrets même, Seigneur. Et les Écritures nous disent qu'encore aujourd'hui, tu es à l'œuvre, non seulement pour notre salut, mais pour maintenir l'univers, Seigneur, pour garder l'univers en fonction, que tout se déroule bien dans le déplacement des planètes, dans tout l'univers, Seigneur. Tu es un Dieu à l'œuvre. Et notre privilège à nous, parce que tu nous as créés à ton image, c'est d'entrer dans ton œuvre, Seigneur, et de se mettre à l'œuvre avec toi. Je te demande de nous enseigner ce matin, de nous aider à comprendre ces choses, de nous aider, Seigneur, à les découvrir dans notre travail. Je prie, Père, de nous aider à comprendre ce que ta parole enseigne sur le sens du travail, au-delà de pourvoir à nos besoins, Seigneur, parce que nous voulons être comme toi. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Je vous demanderai quelque chose ce matin. Si c'est abstrait, si j'apporte un concept, une idée, puis vous dites, je ne comprends pas, s'il vous plaît, ne vous gênez pas, levez la main, je vais répéter la question. Des fois, ça peut avoir l'air un peu philosophique, mais en fait, c'est profondément biblique, d'accord? Alors, si vous dites, je ne saisis pas, là, je ne sais pas de quoi tu parles, c'est des mots que je connais, mais je ne comprends pas le sens, c'est quoi le rapport? Vous, juste levez la main, gênez-vous pas, s'il vous plaît, pour que je puisse prendre le temps de répondre à vos questions et puis essayer d'éclairer ça. Le titre de cette leçon-là, c'est le mandat culturel. Le mandat culturel que Dieu donne à l'humanité, aux hommes, aux femmes, à tous les êtres humains. Il y a en théologie, on appelle ça le mandat culturel. On va le développer ensemble parce que ça aide à donner beaucoup, beaucoup de sens, à apporter beaucoup de sens à l'ensemble de nos activités. Comme chrétiens, des fois, on est un peu binaire. C'est blanc ou c'est noir. Puis, donc, il y a les choses qui comptent, c'est annoncer l'Évangile. Parce que si tu annonces l'Évangile, bien, il y a des gens qui vont venir à la connaissance de Jésus. Puis s'ils viennent à la connaissance de Jésus, ils vont être avec nous dans l'éternité. Puis tout le reste, c'est correct, tu sais, c'est là, mais c'est... on entretient ce genre de pensée-là, tu sais, c'est tellement plus spirituel de vouloir amener les gens au ciel. Oui, mais Dieu ne nous a pas placés sur la terre juste en attendant le ciel. On n'est pas là simplement en attendant le ciel. Dieu avait un projet en créant l'univers, en créant la terre, en plaçant l'homme, la femme dans le jardin. Il y avait un projet glorieux. Et oui, ça impliquait éventuellement que l'être humain pêche, que Jésus-Christ vienne, qu'il meure sur la croix. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité? Bien, à quelque part, ce qu'on va faire dans l'éternité, c'est ce que Adam et Ève étaient appelés à faire dans le jardin d'Éden. Mais on va le faire sans possibilité de péché, avec un corps glorifié. Si vous regardez les textes prophétiques, c'est assez obscur ce qu'on va faire dans l'éternité, mais il est question de gouverner, il est question de cité, Donc, je n'ai pas de raison de croire que dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nos activités vont simplement être de jouer de la harpe puis de chanter des louanges pour l'éternité. J'ai pas de raison biblique de croire ça. Je comprends que c'est abstrait pour nous, mais on va encore avoir un corps glorifié. On va encore être à l'image de Dieu. Et donc, j'ai toute raison de croire qu'on va encore être en train de créer des choses, de construire des choses, sans la malédiction qui a été jetée sur l'humanité, qui rend le travail difficile, ardu. Mais je n'ai pas de raison de croire, bibliquement, que notre activité va être un peu de flotter dans le cosmos en communion permanente avec Dieu, puis juste être en train de jouir de la présence de Dieu sans faire aucune activité humaine. Pas de raison biblique de croire ça. Donc, on a un mandat culturel qui nous est donné à partir d'Adam et Ève et qui se manifeste dans notre quotidien. Que je sois un pasteur, que je sois un préposé aux bénéficiaires, un policier, un concierge, un enseignant, une maman à la maison avec les enfants, peu importe, quelqu'un qui est à la retraite puis qui donne du temps pour prendre soin de la famille, pour servir dans l'Église, ce mandat culturel-là vient nous rejoindre tous. On va prendre le temps juste de se tourner vers les Écritures. Dans les leçons précédentes, ce qu'on a vu ensemble, c'est que le travail fait partie du dessein de Dieu. Dieu voulait qu'on travaille, ça c'est clair. Qu'il y a une dignité aussi, dans le fait que ça vient de Dieu, c'est un mandat que Dieu nous donne. Même lorsque ça semble banal, répétitif, il y a une dignité dans ça, on est en train de faire quelque chose de constructif. Là, ce qu'on va parler ce matin, c'est du mandat culturel. Dieu confie à l'humanité le mandat de construire. Alors, quand je vous dis « pensez au mot culturel dans le sens propre du terme », pensez à de la culture, à cultiver. Donc, le mandat culturel apparaît en Genèse lorsque Dieu dit à l'homme, bien, cultivez le jardin, littéralement. Cultivez et protégez le jardin, littéralement. Donc, Dieu donne à l'humanité le mandat de construire. De cultiver, de garder, d'organiser, d'embellir. Ça vient avec ça. Vous savez ce que c'est un jardin? Qui a jamais jardiné ici? Est-ce qu'il y en a qui n'ont jamais jardiné? Tout le monde a un petit peu mis les mains dans la terre. C'est tout un art, entretenir un jardin. Penser ton jardin, puis dire, ben, je vais mettre cette plante-là à côté de celle-là parce que les deux contribuent plus l'une à l'autre, puis celle-là, je vais l'éloigner ici. Puis ici, j'ai telle plante qui a tendance à éloigner justement, admettons, les limaces, les asticots. Puis ici, je vais venir engraisser la terre. C'est un travail. C'est un travail de construction. C'est même un travail de créativité. Je vais mettre cette fleur-là qui va éclore à telle saison à côté de cette fleur-là parce que celle-là va suivre. Puis mon jardin est en train d'éclore pendant toute la belle saison. Mais c'est de la créativité que je suis en train de faire. Je sais, vous allez me dire, mais ce n'est pas du Michel-Ange. Mais c'est de la créativité. Je suis en train de cultiver le jardin. Je suis en train d'entretenir le jardin. Je suis en train de l'organiser. Il y a un scientifique que j'aime beaucoup. Quelques-uns ont commencé à le suivre sur YouTube, Stephen Meyer. C'est un scientifique qui s'est spécialisé vraiment dans les plus petites molécules qui existent, les plus petites particules qui existent, et qui prend le temps de défendre le fait que l'évidence est très grande qu'il y a un designer derrière l'univers. C'est un vieux concept qu'on apporte déjà depuis plusieurs décennies, mais il le défend très, très bien. Lorsqu'on arrive avec l'ADN, ben là, c'est comme la preuve ultime qu'il y a une organisation. J'ai déjà cité quelquefois Zelensky, un mathématicien athée, qui dit « C'est absolument improbable que l'univers soit organisé comme il l'est sans qu'il y ait une main derrière qui l'ait organisé. » Alors, lui, il est athée. Il dit « J'aimerais croire en Dieu, mais avec ma raison, je ne peux pas croire en autre chose que Dieu. » Mais il n'y a pas la foi. La foi, c'est un don de Dieu. Tout ce qu'il dit, c'est mathématiquement, c'est impossible qu'il n'y ait pas un designer. Et donc, pour nous, les chrétiens, lorsqu'on va vers les Écritures, puis on voit Dieu qui ordonne, il prend le chaos et il l'ordonne. Il met de l'ordre, il crée à partir du chaos, même à partir de rien, ex nihilo, à partir de rien, il crée, puis là, il va mettre de l'ordre, puis il va structurer les choses. Et puis, il va y avoir des cycles, il va y avoir des jours, il va y avoir des plantes qui vont suivre des règles de chimie, de physique pour grandir. C'est un créatif qui fait ça, qui est en train d'organiser. Puis Dieu nous crée à son image, nous place dans le jardin et dit « Je vous donne le mandat maintenant de créer à votre tour. Vous allez cultiver le jardin. » Dieu aurait pu faire, je veux dire que tout soit codifié dans l'ADN de la nature. Puis il place Adam et Ève là, puis il leur dit, bon, ben Beach Club, vous n'avez rien à faire. Parce qu'on est avant la chute quand il leur donne le mandat de cultiver, vous comprenez? Mais il aurait pu dire, non, ça, écoutez, c'est les vacances à l'année, vous n'avez rien à faire, vous vous levez le matin, vous cueillez votre fruit, t'sais, l'arbre va être syntonisé avec vous, puis au moment où vous aurez faim, pop, il y a un autre fruit qui va apparaître. Il pourrait même avoir créé des arbres qui l'amèneraient jusqu'à nous. Hein. Il y a des arbres qui poussent à grande vitesse. Je pourrais rester couché toute la journée, puis Dieu ferait que les pommes viendraient tomber dans ma main littéralement pour que je les mange. C'est pas ça que Dieu a voulu. Dieu nous a donné un mandat de cultiver. Tu es dans le jardin et on doit créer. On doit construire, on doit agencer, on doit nourrir, on doit entretenir. Avant la chute. Donc, c'est dans notre ADN, si je peux dire, parce qu'on est créé à l'image de Dieu, d'être des êtres qui construisent, qui créent, qui organisent les choses. Et donc, lorsque vous pensez à l'activité humaine sur la Terre, notre réflexe aujourd'hui, parce que le discours ambiant est celui-ci, et il n'est pas entièrement faux, mais il y a un fondement qui ne tient pas la route dans une vision biblique de la Terre. Lorsque vous pensez à l'activité humaine sur la Terre, actuellement, ce qui est souvent communiqué, tout spécialement à nos enfants, c'est que l'être humain est un être toxique qui détruit la nature. Littéralement, c'est ça qui est communiqué. L'élément qui est vrai derrière ça, c'est que comme bons représentants de Dieu, comme bons intendants sur la Terre, on devrait chercher à perfectionner tout ce qu'on fait pour avoir la meilleure manière de prendre soin de la Terre. Donc, les chrétiens, plus que n'importe qui d'autre, devraient comprendre que si la nature est si merveilleuse, c'est parce qu'il y a un designer incroyable qui l'a créé. Et donc, on veut faire le mieux possible. Et je reviens à mon image du jardin. Bien, si vous avez dans votre famille ou si vous-même, vous cultivez un jardin, justement, un bon jardinier est constamment en train de récupérer, d'agencer, parce que ce qui est mort va nourrir ce qui va venir, la vie va venir de ce qui va mourir, et constamment, on est en train de travailler, on est en train de récupérer. Et c'est littéralement ça, un jardin, parce que même gérer les déchets, c'est du travail. Et donc, si au contraire, d'en faire des déchets, je peux les récupérer pour faire de l'engrais, c'est merveilleux, c'est magnifique. Donc, les chrétiens devraient voir l'activité humaine sur la terre comme une activité qui devrait toujours chercher à s'améliorer. Mais l'être humain qui crée des routes. J'arrive du fond du bois, là, littéralement, là, à 9 heures d'ici, au nord du Québec, j'ai passé une semaine dans le bois. Plus dans la nature que ça, c'est difficile à concevoir, d'accord? J'étais vraiment dans la nature et ça nous prenait des routes pour se rendre là. Et je pourrais, si j'étais dans la pensée du temps, dire, mais il ne devrait pas y avoir de route ici. Parce qu'il ne devrait pas y avoir la trace de l'être humain sur Terre. Partout où l'être humain laisse une trace, il est en train de détruire. Ce n'est pas une pensée qui vient de Dieu. Je vais aller plus loin que ça, parce que lorsqu'on amène cette pensée-là à son summum, on va parler du spécisme. Et ce que ça dit, c'est que finalement, la Terre se porterait mieux s'il n'y avait pas d'être humain sur la Terre. La meilleure chose qui pourrait arriver, ce serait que les êtres humains disparaissent. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Les gens ont une vision bucolique, pas réaliste de la nature, où ils se disent « Non, mais si l'être humain n'était pas là, la nature serait merveilleuse. » Je vais juste le dire une fois, là, parce que c'est cru pour certains d'entre vous, là, mais la nature est extraordinairement cruelle. Moi, je vais dans la nature, une bête qui tue une bête, est-ce que je peux vous dire que c'est autrement plus violent qu'un boucher? C'est ça la réalité, là, d'accord? Donc, Si je laisse aller ma pensée ou l'être humain, tout ce que l'être humain fait ternit la nature, je vais dériver dans une pensée proprement diabolique. C'est pas banal, c'est diabolique. D'en venir à dire, mais finalement, l'agent toxique sur la Terre, c'est l'être humain. L'univers se porterait mieux s'il n'y avait pas d'être humain. Pas du tout. Dieu a créé la Terre. Et le summum de sa création sur la Terre, c'est l'être humain, créé à son image. Et oui, on amène de l'ordre dans un certain chaos. On entre dans l'œuvre de Dieu en agençant. Et donc, lorsque je vois des routes, bien, je devrais toujours me poser la question, est-ce qu'on pourrait le faire de manière plus écologique? Numéro un, super, On devrait être les meilleurs environnementalistes, les chrétiens, les meilleurs écologistes. Aucun problème, parfait. Tu veux te lancer dans les études, dans les sciences pour justement améliorer ça, numéro un. Mais de penser que la route en elle-même, la présence, la marque de l'homme sur la terre est un crime en soi, ça, c'est une pensée qui ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés à créer des cités, des villes, des maisons, à se multiplier sur la terre, à organiser nos sociétés et à le faire comme de bons intendants. Comme si je te donnais un lopin de terre, puis je te disais, ce lopin de terre-là, tu dois faire vivre le maximum de personnes avec ça. Bien, en bon cultivateur, tu vas commencer à traiter ta terre, puis tu vas trouver les limites de cette terre-là, puis tu vas chercher à l'engraisser, puis tu vas dire, OK, on ne peut pas aller plus loin que ça, ça serait de l'abus, ça va juste détruire, tout va être détruit si on va plus loin. Tu vois? C'est le mandat culturel. Là, j'y vais comme au plus simple avec la terre. Mais c'est vrai dans tout ce qu'on fait. Et donc, notre travail à nous est appelé à ressembler à notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a organisé à partir de rien, ensuite à partir du chaos, un univers qui suit des règles ordonnées. C'est un créatif extraordinaire. Et nous, on entre dans ce mandat-là. Dans Genèse 1, verset 26-28, puis chapitre 2, verset 15, on lit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Puis, au chapitre 2, verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Si vous prenez le mandat qui est là, ça veut dire qu'on allait construire des cités. Ça veut dire qu'on allait organiser nos vies. Ça veut dire qu'on allait probablement se construire des maisons. On allait tout faire ce qui était nécessaire pour pouvoir être les intendants de la terre où Dieu nous a placés. Dieu dit de dominer sur les poissons. Faites juste prendre cette idée-là, puis essayez d'imaginer, avant la chute, là je ne sais pas, là, c'est au meilleur de l'imagination de chacun, mais comment l'être humain va faire pour dominer sur les poissons? Il faut voir qu'il y ait de la créativité, là, je veux dire. Ce n'est pas particulièrement notre environnement, là, l'océan. Tu sais, dominer sur une baleine, il va falloir être créatif, il va falloir faire quelque chose. Donc, je ne sais pas ce que ça aurait donné avant la chute. La chute vient corrompre plein de choses, puis là, on commence à abuser, puis on éteint des espèces. Je comprends tout ça, là. Mais ça, ça fait partie vraiment de notre mandat. Et donc, il nous est donné le mandat. On a la mission de construire, de cultiver, de garder, d'organiser, d'embellir. Ce mandat concerne tous les êtres humains, que ce soit du laboratoire à la cuisine, du chantier à la salle de classe, de la retraite au bénévolat, c'est tout compris là-dedans. Voyez-vous, le verbe « cultiver » implique de développer, de faire fructifier, d'organiser, de garder. Garder implique protéger, maintenir. Et donc, c'est notre appel. On est appelé à faire ça. Ça a une implication pour l'ensemble de notre travail. Parce que comme je l'ai déjà dit, je pense à la première leçon, bien quand je passe le balai, je suis en train de ramener de l'ordre là où il y a du désordre. Je suis en train de ramener de la propreté. On est arrivé à notre camp dans la forêt, littéralement là, à 3h30 au nord du lac Saint-Jean. Et la personne qui était passée avant nous, là, j'espère que vous avez déjeuné ce matin, que vous n'avez pas des hauts le cœur. La personne qui était passée avant nous avait éteint le gaz sur le réfrigérateur. Ça va bien jusque-là. Tu éteins le gaz, tu ouvres la porte, tu ne laisses pas d'aliments. Ça va? Il avait éteint le gaz, laissé la porte fermée et laissé les vers de terre pour la pêche dans leur terre dans le réfrigérateur. Un mois plus tard, on est arrivé. Tout allait bien jusqu'à ce qu'on ouvre la porte du réfrigérateur, qui était rempli de moisissures à la grandeur du réfrigérateur. Et l'odeur s'est imprégnée partout dans le camp. En quelques minutes, j'ai passé 2 heures avec de l'eau de Javel, essayer de faire partir ça du réfrigérateur. D'accord? Bien, quand j'étais en train de laver le réfrigérateur, est-ce que vous pouvez me croire que tous les autres qui étaient avec moi puis qui allaient passer ce temps-là avec moi étaient reconnaissants pour l'ordre que j'étais en train d'apporter dans le désordre? C'est banal, je faisais juste laver un réfrigérateur. Non, mais il y avait de la moisissure, il ne devait pas en avoir. Soit dit en passant, j'ai placé ensuite mon fromage Cambozola dans le réfrigérateur, qui contient de la moisissure là où elle doit se trouver, dans le fromage Cambozola. Il y a de l'ordre, pas du désordre. Voyez-vous? Ça a de l'air banal, ça a de l'air niaiseux, mais en faisant ça, je ressemble à mon Créateur, qui a amené de l'ordre dans le désordre, qui a rendu la terre viable pour nous, littéralement. Là où ça aurait été non viable, Dieu a porté l'ordre pour que ce soit viable. Et donc, si ta job, c'est de passer le balai, tu es en train de ramener de l'ordre dans le chaos qui est en train de s'installer. Et tu as juste à ne pas le faire pour la prochaine année et demie. Tu vas voir, il va s'installer tout seul, le chaos. Il n'y a pas de problème. Ça va devenir super malpropre dans la maison. Tu as juste à ne pas sortir la canne de verre du réfrigérateur et de laisser ça fermer. Le chaos va s'installer de lui-même. Et le réfrigérateur sera plus fonctionnel du tout. Oui. Oui, je comprends la bonne question. Je vais juste le répéter. Dans le fond, la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce qu'on dirait qu'on est comme Dieu en mettant de l'ordre dans le désordre, alors que Dieu a créé l'univers parfait, puis que Dieu, lui, vient mettre de l'ordre dans nos vies désordonnées, c'est vrai. Comment est-ce que je le dis? C'est que dans le jardin d'Éden, la vie est présente, mais Dieu dit, tu vas ordonner encore la vie. Donc, il dit, tu vas cultiver le jardin. Dieu aurait pu décider que le gazon, je ne sais pas s'il y avait du gazon dans le jardin, là, peut-être qu'il marchait juste parmi toutes sortes de plantes, mais il aurait pu décider qu'il poussait 2 pouces puis qu'il ne bougeait plus. Tu sais, parfaitement coupé. Gazon synthétique, permanent à l'année, mais pas synthétique. Il aurait pu décider ça. On peut déduire probablement que ce n'est pas ça que Dieu fait. Et Dieu met Adam et Ève là, puis il leur dit, vous allez mettre de l'ordre dans l'ordre de l'univers extraordinairement que j'ai créé, mais qui est une vie. C'est une vie qui continue à vivre. Il va falloir que vous en occupiez, là, parce qu'elle va continuer à prendre la place. J'avais planté une vigne sur le côté de ma maison à Saint-Hubert. Bien, ma vigne, si je voulais qu'elle porte beaucoup de fruits, il fallait que j'y apporte un peu d'affection. Il fallait, une fois que toutes les feuilles étaient sorties puis que tous les bourgeons partaient, bien, je disais, ça, c'est un gourmand. On l'enlève, celui-là, parce que je veux plus de raisins ici. D'accord? Oui, tu as raison si tu associes le mot « désordre » avec quelque chose de négatif, tu vois. Mais on est appelé à cultiver, et en cultivant, j'apporte de l'ordre. C'est ça que je suis en train de faire. Si sa fonction, c'était simplement de croître, bien, je pourrais dire ça, mais je veux dire, je pourrais vous donner plein d'exemples. Au Québec, la manière qu'on entretient les forêts, on a un rôle à jouer dans les forêts. Et là, nous, quand on voit une forêt qui brûle, on se dit « mais c'est la fin du monde ». Les animaux qui sont là disent « bon, ils ne disent pas, là ». Mais s'ils pouvaient parler, les animaux nous diraient, dans une fable de La Fontaine, « S'il vous plaît, arrêtez ce feu juste au bon moment pour que de nouvelles pousses viennent. » Moi, je vais dans le Nord côtoyer des grands mammifères. Ces grands mammifères-là aiment beaucoup plus les feuillus que les conifères. Et donc, lorsque les forestières passent, une fois qu'elles ont fini leur travail, d'abord, tous les chemins des forestières deviennent des autoroutes à grands mammifères. L'ours, le loup, l'orignal, le caribou. Dans une journée, je peux toutes les voir, ces pistes-là, parfois. Et donc, ils servent des chemins qu'on a faits, mais après ça, ils s'en vont là parce qu'il y a plein de pousses vertes. Et c'est ça qu'ils préfèrent, c'est les jeunes pousses vertes. Et donc, juste la nature laissée elle-même, je pourrais dire, elle est en ordre. Mais venez marcher avec moi dans une forêt où l'être humain n'a pas mis le pied depuis 100 ans. Vous essayerez de marcher. Ce que vous allez conclure, c'est que Dieu n'a pas créé la forêt pour l'être humain, juste pour les orignaux. Mais ce n'est pas vrai. On vient de le dire, Dieu a créé la nature pour qu'on cultive la nature. Et donc, lorsque je vais dans le Nord puis je vois le travail des forestières, si c'est bien fait, ça contribue à 100% à ce qui est en train de se passer là. Si c'est bien fait, on peut abuser. Voilà. Donc, pas de désordre dans le sens négatif du terme, mais définitivement un mandat de cultiver. Dieu aurait pu nous placer dans le jardin puis dire « enjoy ». Mais non, Dieu a dit « vous allez être comme moi ». Et donc, vous allez créer, vous allez cultiver, vous allez ordonner, vous allez organiser les choses. Le jardinage dépasse la simple préservation. Il enrichit la terre et produit de la nourriture, de la beauté. Il canalise les forces de la création vers un bien commun. De même, un enseignant canalise des connaissances. Un mécanicien met de l'ordre dans la mécanique. Un gestionnaire harmonise des compétences. Voyez-vous, quand nous, on voit la technologie avec les déchets que ça produit, la doctrine contemporaine dit « donc c'est mal ». Ce n'est pas la bonne vision des choses. La bonne vision des choses, c'est « on ne peut pas être satisfait d'avoir fait ça, il faut poursuivre parce qu'on veut faire beaucoup mieux ». Donc, on veut améliorer. Il y a une place pour une théologie, hein, une pensée de Dieu, de l'environnement. Et il y a de bons bouquins là-dessus, là. Très réfléchis. Un mécanicien met de l'ordre dans la mécanique, un gestionnaire harmonise des compétences, un parent façonne un foyer. Chaque tâche, petite ou grande, fait passer le monde du sauvage au cultivé. Et ce n'est pas mal. Maintenant, d'autres dieux et d'autres religions vont vous dire non, c'est l'état sauvage qui est le bon, parce que nous ne sommes que des animaux. Comme je vous ai dit, venez passer une semaine avec moi dans la forêt, vous allez voir que c'est très cruel, la nature. C'est extraordinairement cruel, dans notre perspective à nous. Pour eux, il n'y a aucune cruauté. Je mange, donc je suis. Ah, mais nous, je pense, donc je suis. Et donc, on regarde ça, puis on se dit, ouf, c'est bien violent, cette affaire-là. On a ce mandat-là de créer. Concrètement, vous êtes à la retraite, votre travail n'a pas cessé, vous cultivez le mentorat, vous partagez des dizaines d'années d'expérience de vie dans des choses banales. Des fois, dans des choses banales, tu as appris à faire cuire un steak. J'aurais aimé ça savoir comment faire cuire un steak avant d'en brûler une vingtaine puis de manger de la semelle de botte. Tu as appris à changer l'huile sur ta voiture. Tu as appris à faire de la couture. Vous voyez, ça peut être des choses super banales, mais tu vas transmettre. Après ça, il y a tellement plus à transmettre sur les relations, sur le sens de la vie. Retraiter votre travail n'a pas cessé. Vous cultivez le mentorat, la prière, le service. Pour les nouveaux arrivants, vous arrivez ici, puis là, vous dites, « Écoute, moi, je suis en mode survie. Pour moi, travail, c'est survie. » Oui, mais il y aura plus après Dieu voulant. Il y aura plus après, on pourra voir que dans notre travail, on est en train de construire, de créer, d'organiser. Ceux qui sont actifs au travail, votre bureau, votre chantier, votre hôpital, votre commerce, peuvent devenir des lieux où vous êtes en train de glorifier Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu en disant, « Seigneur, je suis en train de cultiver. » Je suis en train de cultiver la nature. Et des fois, on a l'impression qu'on est très loin de la nature. Oui, mais vous comprenez que ce qu'on a de plus artificiel, c'est quand même créé à partir de molécules que Dieu a créées. Là. On l'a réorganisé. J'en ai pas vu beaucoup cette semaine dans la forêt, des chaises comme celle-là. Mais je veux dire, ce qui compose ces chaises-là, c'était à peu près tout dans la nature avec moi. C'est juste qu'on l'a réorganisé, on l'a restructuré, littéralement. Et donc, si je comprends ça, c'est notre mandat à nous d'organiser davantage, de cultiver toute la nature que Dieu nous a confiée. Bien, c'est ça que je suis en train de faire quand je construis une chaise. C'est peut-être abstrait par rapport au jardinier, mais je veux dire, le jardinier est juste moins, il fait moins d'intervention. Il dit aux plantes, bien, j'aimerais mieux que tu ailles là au lieu d'aller là, regarde, je vais te transplanter ici. Mais ça, c'est la réorganisation de molécules. C'est ça qu'on fait. On réorganise des fibres, on crée des choses à partir de ce que Dieu a créé, littéralement. Et donc, le travail est un effort d'innovation, de transformation. Keller donne comme exemple dans son livre un entrepreneur chrétien en Arménie qui récupère toutes sortes de choses perdues pour en faire des tapis d'artisanat de très, très grande qualité. Donc, à partir de déchets, il crée de la beauté. littéralement. Il est en train d'innover, il est en train de transformer. Ça fait partie du mandat que Dieu nous a donné. Vous comprenez, quand ils sont dans le jardin, Dieu leur dit, vous allez créer des choses maintenant. Vous allez cultiver ça. Ce n'est pas simplement passer la tondeuse, là. Adam ne passait pas ses journées à passer la tondeuse dans le jardin d'Éden. Si ça avait été ça, ben, il se serait construit un tracteur. Il se serait dit, on va quand même faire autre chose aujourd'hui que passer la tondeuse. Non, c'est tout ça, c'est cultiver, c'est être créatif pour arriver là. Keller dit, reconnaître que c'est Dieu qui nous fournit ses ressources et nous accorde le privilège de participer à son œuvre. Je vous ai mis un petit cartoon pour ceux qui aiment les mangas. Mais on entre dans l'œuvre de Dieu littéralement. Dieu crée et nous on vient et on recrée, on innove. Et donc si ton aspiration c'est de devenir infirmier, admettons, devenir infirmière, ton but c'est d'aller soigner, c'est d'aller préserver la vie, c'est d'aller ramener une qualité de vie à des gens. Si tu es commis de bureau puis tu accueilles des gens, qu'est-ce que tu vas créer littéralement là? Je vais vous donner un exemple. Dans les dernières semaines, j'ai eu plusieurs appels à faire. Quand tu tombes sur quelqu'un, tu sais, après les 42 minutes où tu essaies de trouver comment parler à un être humain, puis là, tu arrives, tu parles à un être humain, puis la personne, elle comprend que tu es fatigué d'avoir traversé tout le système pour lui parler et que tu espères juste que l'appel ne va pas se terminer avant qu'on ait trouvé les réponses à tes questions. La personne le fait avec un sourire. Elle aurait beau le faire avec un accent des Indes, tu bénis Dieu, là. Tu comprends, là, c'est... Si la personne est souriante à l'autre bout de la ligne, elle comprend que tu es fatigué parce que tu cherches des réponses, elle te dit « on va trouver une solution ». J'ai dû aller conduire quelqu'un à l'hôpital cette semaine. L'infirmière qui était devant moi avait un obstacle, elle ne pouvait pas prendre cette personne-là. Plus de civière, plus de place. Mais elle comprenait que j'étais dans une situation difficile, je ne pouvais pas repartir avec cette personne-là. Je m'en allais au fond du bois, littéralement. Fait qu'elle m'a regardé et elle m'a dit « qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Puis ça ne voulait pas dire, qu'est-ce que je fasse pour toi, je peux rien faire. Non, qu'est-ce que vous attendez de moi? Elle a pris le temps de m'écouter, j'ai résumé ma situation. Elle me voyait, là, j'avais mon code de chasse, là. C'était très concret. Là. Quand tu étais à Alma, les hôpitaux là-bas comprennent des choses que les hôpitaux de Montréal ne comprennent pas. Fait que, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Là, j'y explique un peu ma situation. Elle dit, j'ai un problème, j'ai pas de civière. Elle dit, voulez-vous aller vous asseoir? On va trouver une solution. Et moi, elle a créé de la paix en moi. Littéralement, là, elle a créé, j'ai dit, elle comprend ce que je suis en train de vivre. C'est incroyable. Je suis allé m'asseoir, je n'avais pas de solution encore, là, j'étais anxieux. Même chose quand j'ai parlé à la deuxième infirmière. Ça faisait des heures, pas vu le médecin, je ne savais pas ce que je devais faire. Est-ce que je dois repartir avec la personne? Est-ce que je la laisse ici? Je ne sais pas. Elle me dit, dans quel coin vous êtes? Secteur des passes dangereuses. Elle dit, il n'y a pas de réseau là-bas, je ne peux pas vous laisser partir avec lui. Inquiétez-vous pas, on va le garder. Partez, allez-y. C'est simple, elle m'a parlé 30 secondes. Elle a fait ma paix, elle a fait ma joie, littéralement. Elle n'est pas en train de créer un nouveau bonsaï ou créer la tour Eiffel, ou, je comprends, mais elle a créé de la joie dans mon fardeau que moi je suis en train de porter. Donc, tu es commis de bureau, tu es à la banque. Écoutez, aujourd'hui, plus que jamais, là, ça a l'air banal, mais donner un sourire à quelqu'un et dire « comment je peux vous aider aujourd'hui? » Pas une machine qui me dit « faites le 1 ». C'est simple, mais c'est ça. Ça fait partie du mandat culturel. Je suis en train de créer de la joie. Je suis en train de créer des relations. Je suis en train d'organiser le chaos. Quand tu appelles dans un système, c'est littéralement le chaos. Il y a 28 options, mais il n'y a pas la bonne. Là, tu parles à quelqu'un et il dit « ah, je sais avec qui je dois vous mettre en contact ». Cette personne-là vient de créer l'ordre dans le chaos. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous d'accord? Hey, c'est extraordinaire. Viens de créer l'ordre dans le chaos, littéralement. Ça fait partie de ce mandat-là. Dans Genèse 1, Dieu voit que cela est bon. Ça revient un petit peu à la question de David. Donc, la nature est bonne. Ce n'est pas que la nature est mauvaise. Maintenant, nous, on est appelés de belle manière à transformer ce que Dieu a créé. À le faire avec respect, avec justice, avec beauté. À ne pas l'exploiter pour rien. C'est pour ça que je dis, il y a plus à faire lorsqu'on se dit, OK, on a créé une technologie, mais elle a des conséquences. T'sais, les médicaments ont toujours généralement des effets secondaires. Nos technologies ont toujours des effets secondaires aussi. Bon, mais c'est correct de se dire, moi, je veux être celui qui règle les effets secondaires. On va améliorer la technologie. Il y a mieux à faire encore. C'est parfait. C'est une pensée 100% biblique. C'est une culture qui donne la vie plutôt qu'une culture qui vient juste dévorer. On ne veut pas être simplement des êtres qui dévorent. Parce que là, on ne ressemblerait pas à notre Dieu. Notre Dieu crée, il donne, et c'est ce qu'on est appelé à faire. Je suis curieux si quelqu'un aurait un exemple personnel à donner où vous étiez dans une situation qui était chaotique. Ça peut être au travail, des relations, ça peut être à l'école, ça peut être physiquement, et Dieu vous a donné une idée pour mettre de l'ordre dans ça. Une réparation, une construction. Dynamique de travail qui ne fonctionne pas. Moi, quand je m'assois avec un comptable, là, pour moi, c'est des magiciens, c'est des alchimistes. Ils prennent des choses complètement abstraites pour moi, puis ils me disent, oui, si tu mets ça dans cette colonne-là, poup, ça fait apparaître de l'argent. Je ne sais pas comment ils font. Ils en font disparaître aussi, mais vous comprenez, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un exemple d'une situation, quelque chose où vous avez été confronté? Je pourrais donner Mario un exemple, parce que Mario fait de la magie avec des ordinateurs le vendredi ici. Il met de l'ordre dans le désordre, puis il prend soin des cœurs en peine. Est-ce qu'il y a une situation que vous avez vécue où vous étiez face à un chaos quelconque, puis Dieu vous a donné une idée pour mettre de l'ordre? Quelqu'un qui se mouille? Oui, vas-y Vincent. Vincent, c'est notre créatif, fait que. Go. Autiste? Oui. Fonctionnel, mais oui. Comment l'amener à participer?
Exactement.
Ouais.
Puis en fait, à un moment donné, j'ai juste réalisé, c'est vraiment banal, c'est vraiment anodin, mais j'ai juste réalisé que c'était le seul élève qui écrivait en lettres attachées. J'ai dit, j'aurais proposé cette hypothèse-là, ça se peut-tu qu'il soit gêné parce qu'il écrit en lettres attachées? Puis finalement, en fait, c'était exactement ça le problème. Il avait peur, il avait honte, en fait, que son écriture ne soit pas la même que les autres. Il avait peur de ne pas se faire comprendre. Puis soudainement, on a pu intervenir directement là-dessus. Il a commencé en fait à accepter ce prérequis-là en étant fier justement d'écrire en lettres attachées parce que c'est bien plus compliqué d'écrire en lettres
attachées. Mais oui.
Qu'en lettres détachées.
Génial. Oui, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Il y a quelqu'un qui souffre, qui est malheureux, qui n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire. Puis en étant attentif, tu as comme déduit que c'était peut-être ça le problème, tu sais. Vas-y. Génial, merci. C'est un très bon exemple. Donc, une résolution d'une situation difficile pour quelqu'un qui est autiste, juste en étant attentif, en écoutant, en prenant soin. Mais lorsqu'on est en train, puis c'est un exemple, c'est pas en train de cultiver une plante, t'es en train de cultiver, d'aider quelqu'un à fonctionner. Là, tu le croises, puis il est au travail. C'est extraordinaire. J'ai travaillé en déficience intellectuelle comme éducateur spécialisé. Puis c'était ça, des fois, c'était des choses simples. Un soir, un des résidents s'est désorganisé parce qu'on ne m'avait pas dit un ingrédient qu'il prenait lorsqu'il faisait son spaghetti. C'est lui qui faisait son spaghetti, mais il manquait cet ingrédient-là. On ne me l'avait pas dit. Je peux vous dire qu'on est passé de l'ordre au chaos très, très rapidement. Là, ça a été long et fatigant, mais c'est juste qu'on n'avait pas pris le temps de me dire non, mais ça lui prend son parmesan à ce moment-là. Tout se serait bien passé, d'accord? Mais ça, c'est un bel exemple. Merci, Vincent. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de cultiver. C'est dans les relations, c'est aider les gens, c'est prendre soin des gens. Mais c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train de cultiver. Et j'ai besoin d'être créatif. Lorsque je suis créatif, lorsque je suis attentif, je ressemble encore une fois à Dieu qui a créé. Et ça peut être des choses aussi banales que réparer un outil qui est brisé. Lorsque je suis allé en Haïti, c'était extraordinaire. Ils n'ont pas de pièces automobiles, mais ils réparent tous les véhicules. Au Québec, on dirait que c'est des gosseux, là. Écoutez, ils vont faire une pièce avec rien, puis la voiture démarre, puis elle roule. Je comprends pas. Mais ils font des pièces, littéralement. Ils n'ont pas le choix. Ils deviennent créatifs. Il faut que le véhicule fonctionne, c'est essentiel. Ce que vous faites ressemble à ce que Dieu fait, quel que soit le type d'activité où vous êtes appelé. Et en faisant ça, ce n'est pas simplement qu'on est en train de survivre. Si vous pensez au travail comme nécessité pour survivre, peut-être que c'est là que vous êtes, puis c'est vrai, c'est juste, mais c'est très incomplet. Parce que le travail que vous faites est en train de contribuer à l'ordre dans la société. Et donc, vous êtes en train de créer de l'ordre, littéralement, quel que soit le mandat que vous faites. Que ça puisse sembler banal. Vous êtes aux études, tu es assis sur les bancs d'école, tu dis « j'apporte rien ». Oui, mais tu comprends-tu que les personnes âgées sont vraiment heureux qu'il y ait des étudiants sur les bancs d'école? Parce qu'ils vont avoir besoin que tout ce qu'eux ont entretenu de leur vivant continue à s'entretenir. Il faut que ça continue à fonctionner. Et ne pensez pas que le AI va régler tout ça, là. Ça va prendre pas mal d'accompagnement, cette affaire-là, si on ne veut pas que ça devienne trop chaotique. Et donc, on est appelé à le faire avec discernement. Tout projet de l'être humain n'est pas bon. On peut détruire, on peut devenir des destructeurs. Toujours pas convaincu si c'était la bonne manière de finir la Deuxième Guerre mondiale avec des bombes atomiques. C'était une bonne idée de mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas la bonne manière de le faire avec des bombes atomiques. Mais il y aurait un argument pour dire, oui, mais on a apporté la paix, l'ordre, la crainte pour quelques décennies. Non, ce n'était pas la bonne manière. Tout projet qu'on a n'est pas un bon projet. Ce n'est pas la bonne chose à cultiver. Il y a des activités qui sont nocives, qui exploitent, qui détruisent l'image de Dieu. Le mandat culturel appelle à une créativité soumise à la sainteté, au bien commun, à l'amour du prochain. Donc, je vous donne quelques questions ici qu'on peut se poser lorsqu'on regarde à notre activité, à nos activités humaines. Est-ce que ce travail que je fais augmente la justice et la vérité? Est-ce que ce que je fais augmente la justice et la vérité? Tu t'en vas en com. Est-ce que ta job, ça va être d'écrire les mensonges pour qu'on ne sache pas la vérité lorsqu'un politicien n'a pas la réponse? Il y a mieux à faire avec ton talent, je te le dis. Il y a beaucoup mieux à faire que ça. C'est peut-être pas spin que tu veux être. Tu veux peut-être juste communiquer la vérité. C'est un exemple. Est-ce que ce travail augmente la justice et la vérité? Et c'est là en nous, là. Regardez tout ce qui se passe autour d'Israël, la bande de Gaza, là. Je comprends qu'il y a des activistes, puis il y a de la récupération politique, puis un paquet d'affaires. C'est qu'il y a un cri à l'intérieur de l'être humain qui dit « injustice ». Assez, c'est assez. Puis là, c'est ça qui se passe. On a eu un drame cette semaine à Longueuil. Il y a un jeune homme qui a été tiré par des policiers, puis là, il y a eu une enquête, tout ça. Et Dieu merci, je priais. Dieu merci, la manifestation hier, ça a été une marche silencieuse. La famille avait appelé à ce que ça se fasse dans l'unité, dans le calme. Dieu merci, mais je veux dire, il y a un enfant qui est décédé, là, 15 ans, tiré par un policier. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut de la justice. On veut savoir si cette intervention-là était à propos ou pas du tout. Deuxième question, respecte-t-il la dignité des personnes impliquées? J'avais donné l'exemple, je pense, dans la première leçon, quand j'étais préposé aux bénéficiaires, je m'occupais de personnes âgées, je détestais entendre des préposés dire « Viens ici, mon petit monsieur, ma petite madame, viens-t'en, viens-t'en », puis commencer à leur parler comme si c'était des bébés. Non, pour moi, c'était un manque de dignité. C'est mes aînés. Même s'ils n'ont pas toute leur tête, c'est encore mon aîné. Donc, je veux le faire avec dignité. Est-ce que mon travail produit un bien réel ou simplement un profit? Et encore là, c'est discutable, le profit peut servir à créer du bien réel. Mais est-ce que mon travail produit un bien réel? Mon plus gros problème que j'ai avec la loto, les casinos puis tout ça, c'est que ça produit beaucoup plus de mal que de bien. Donc, j'ai un problème fondamental avec le fait de vouloir faire de l'argent en gamblant. Il y a des principes bibliques qui vont à l'encontre de ça. Mais mon problème plus fondamental, c'est que ça crée beaucoup plus de mal que de bien. Fait qu'on essaie de faire seulement du profit sans créer du bien, littéralement. Et on crée du mal avec beaucoup de souffrance, beaucoup de violence. Mon travail permet-il le repos, la gratitude, la générosité? Est-ce que ça me permet de me reposer? Est-ce que ça permet à des gens de se reposer? Est-ce que ça amène des gens à être dans la gratitude envers Dieu? Est-ce que ça amène des gens à être généreux? Est-ce que mon travail renforce l'émerveillement devant le Créateur? C'est peut-être un peu plus abstrait, dépendamment du travail que vous avez, mais est-ce que mon travail peut créer l'émerveillement, renforcer l'émerveillement devant le Créateur? Il y a des gens qui sont dans des domaines de recherche où c'est comme évident, tu sais. Mais il y a des technologies aussi où tu dis, mais l'univers est extraordinaire pour qu'on puisse développer des choses, un avion qui vole, tu sais. C'est comme, oh! Et ça crée de l'émerveillement. La première fois que tu embarques dans un avion, tu regardes à travers les fenêtres, tu regardes les nuages, là. À moins que tu aies vraiment une phobie des hauteurs, là. C'est l'émerveillement total, là. C'est incroyable. C'est juste merveilleux. Aucun travail ordinaire n'est dépourvu de dignité. Ainsi, préparer des budgets, nettoyer une salle, coder proprement, faire du code, accueillir avec bienveillance, documenter un processus. Documenter un processus, c'est extraordinaire pour les personnes qui viennent après. Tout cela porte l'empreinte du Créateur si c'est fait comme pour le Seigneur. Et donc, pensez tout de suite à une tâche hyper banale que vous avez faite cette semaine, puis vous disiez, « Eh, c'est plate de faire ça. » Pensez à une tâche que vous avez faite au travail, à la maison, peu importe, à l'école, puis vous disiez, « C'est tellement poche de devoir faire ça. » Est-ce que vous en avez une à l'esprit? Oui? Revisitez ça à la lumière de ce qu'on vient de dire, dans le mandat culturel. D'organiser, de créer avec créativité, de permettre de créer de la justice, de la beauté, de l'ordre dans le désordre. C'est le mandat culturel. Nous sommes appelés à cultiver ce que Dieu a créé, même dans les tâches les plus banales. Quand j'étais préposé aux bénéficiaires puis éducateur spécialisé, j'ai appris à cultiver, d'honorer les gens qui sont soit qui ont des limites ou soit qui sont en train de dépérir. Et donc, je leur apportais de la dignité. Lorsque je m'occupais d'une personne âgée qui n'était plus en mesure de faire son hygiène personnelle, qu'est-ce que j'étais en train de donner à cette personne-là? Du confort, de la dignité. Littéralement, c'est ça que je suis en train de faire. Alors qu'elle, lorsqu'elle se regarde dans le miroir, elle dit, « Mais j'ai plus de dignité. J'ai perdu ma dignité parce que j'arrive plus à le faire par moi-même. » Mais quand je prends le temps, littéralement, de brosser les cheveux de cette dame âgée, excusez-moi, là, mais de laver son dentier, de l'aider à se changer, de s'asseoir, puis on se fait un sourire, mais c'est extraordinaire. C'est incroyable. Moi, j'ai appris ça en étant éducateur spécialisé puis en travaillant avec préposé aux bénéficiaires. J'ai appris avant-hier qu'un ami à moi, ses voisins, ont appris qu'ils entendaient des jumeaux. Et dans le processus, ils ont appris qu'un des deux enfants, un des deux jumeaux, avait la trisomie. Donc, trisomie 21. Et donc, ils ont fait le choix qui semble cohérent pour eux. Elle s'est fait avorter de cet enfant-là. Et moi, j'ai travaillé avec des trisomiques. Vous ne pourrez pas rencontrer quelqu'un sur la terre de plus gentil que ces gens-là. Ça n'existe pas. Je vous le dis, là, je suis sérieux, là. Je suis tombé en amour avec eux quand j'ai commencé à travailler avec eux. Et là, j'étais là, puis je me disais, OK, mais ça veut dire que le frère ou la sœur de ce jumeau-là qui a été éliminé littéralement va grandir toute sa vie en se disant, j'avais un petit frère ou une petite sœur qui aurait été déficient, mais qui aurait été... Tu sais, la première fois qu'il va, s'il peut encore rencontrer un trisomique, parce qu'on est en train de s'assurer qu'il n'y en ait plus, mais la première fois qu'il va rencontrer un trisomique, ce qu'il va penser, c'est à son frère ou à sa sœur qu'il n'a pas eu. Puis il va rencontrer quelqu'un de tellement gentil, tellement fin, tellement affectueux. Je vous le dis, c'est par expérience que je dis ça. Comme pasteur, qu'est-ce que j'ai découvert dans mon mandat culturel? J'ai appris à cultiver le jardin à travers le temps. J'ai appris à persévérer. C'est pas encourageant tous les jours. Vous savez comment on est? On retombe dans les mêmes péchés, les mêmes chutes. Hier, je célébrais un mariage, mais j'accompagne aussi dans les divorces. Ça vient avec la job, là. Mais j'ai appris à travers les années à dire, continue à investir. Continue à investir, à annoncer l'Évangile. Continue à prier, continue à être présent. J'ai souvent le sentiment d'être juste comme un tuteur à côté d'un arbre. Parce qu'il m'est refusé de faire plus, tu sais, non, on ne veut pas, OK, c'est correct. Je suis là, je suis juste là. Mon rôle, c'est d'être un tuteur à côté d'un arbre qui dure dans le temps. C'est tout. Puis, à un moment donné, je vais voir des fruits. Je vais voir des résultats de ça. Et donc, hier au mariage, je croisais des gens que je n'avais pas vus depuis des années. Puis là, j'entendais parler de fruits. C'était vraiment beau. Moi, c'est une des choses que j'ai appris ici dans mon ministère. C'est être patient. Cette idée-là que, puisque la matière avec laquelle je travaille, ce n'est pas de la matière physique, c'est des gens, mais il faut que je laisse Dieu faire son travail dans leur cœur. Et des fois, j'envie les gens qui travaillent dans la construction. C'est tellement concret, tu sais. À la fin de la journée, là, je sais, chaque fois que je fais des travaux manuels, c'est comme, OK, on a fini la toiture. C'est vraiment cool. Moi, je vais voir ça, tu sais, éventuellement, dans 10, 15, 20 ans peut-être. Mais j'ai appris ça. Il y a une dignité à faire les choses qui semblent ne pas porter de fruits. Et juste avancer par la foi. Tu sais, Seigneur, je sais que je fais la bonne chose. Je veux juste faire la bonne chose, c'est tout. Toi, tu vas faire fructifier en ton temps. Je vous laisse avec des petits devoirs, d'accord? Concrets. Identifie une tâche invisible et accomplis-la en réalisant que tu apportes de l'ordre dans le désordre cette semaine. Est-ce que tu peux penser à une tâche invisible? Il n'y aura pas de merci. Il n'y aura pas de reconnaissance. Aller faire le ménage là où ça ne paraît pas, mais que dans le fond, ça fait une différence. Je ne sais pas. Identifie une tâche invisible et accomplis-la avec excellence et gratitude. Simplement parce que tu es en train de cultiver. Observe une injustice ou un désordre minime et propose une amélioration simple. Puis fais-le. Est-ce que tu es capable de penser une relation au bureau, l'organisation du bureau, à la maison, au travail, whatever, à quelque chose qui est en désordre ou un endroit où il y a de l'injustice. Puis c'est simple, il y a juste une petite intervention à faire puis on va mettre plus d'ordre. Fais-le cette semaine. Ou encore, remercie explicitement quelqu'un dont le travail est normalement invisible. Invisible. C'est bête, hein, mais un concierge qui ne lave pas les toilettes, ça devient très visible. Les meilleurs concierges font un travail qui est absolument invisible. C'est extraordinaire. Ça ne paraît pas qu'il est passé parce que tout est propre. Tu dis, c'est merveilleux. On va aller ensemble dans la prière. Que Dieu puisse vous aider à voir la gloire du travail que Dieu nous donne, quelles que soient les tâches. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Tu n'es pas un Dieu banal. Tu n'as pas créé un univers banal. Tu ne nous as pas placés et donner des tâches banales vraiment, parce que la tâche la plus banale nous permet de te ressembler, Seigneur. Je prie, Père, de nous aider comme chrétiens à, premièrement, nous avancer dans le travail, quel qu'il soit, avec une vision tellement rafraîchie de l'opportunité de te ressembler, Seigneur, d'être à ton image. Je te prie, Père, d'encourager ceux qui ont tendance à voir le travail simplement comme un mal nécessaire. Viens réformer leur théologie, Seigneur. Je te prie même de nous aider à comprendre ces choses-là pour qu'on puisse parler avec des collègues à l'école, des voisins, dans la famille, des collègues de travail, et leur partager notre vision du travail. Changer l'atmosphère en partageant notre vision du travail, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu as créé, de l'ordre que tu as donné à l'univers. Et je suis reconnaissant, Seigneur, que tu n'as pas simplement créé un beach club, mais que tu nous as donné des mains, des bras, un cerveau pour travailler, Seigneur, pour créer, pour construire, pour organiser, pour être à ton image, Seigneur. Quel privilège! C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les notes sont disponibles à l'arrière sur la table. Vous pouvez aussi les recevoir en vous inscrivant à notre liste d'envoi. Vous trouvez aussi les vidéos pour ce cours-ci si vous voulez écouter la leçon avec le pasteur Basile la semaine dernière. Vous pouvez les retrouver aussi avec le lien avec PCO.